MCI TV vous présente l'émission Teach avec Atoms. Un temps d'enseignement et d'étude de la parole de Dieu afin de faire de vous des disciples et vous aider à grandir dans votre foi.
Bienvenue sur Teach, votre nouvelle émission d'enseignement et de maturité spirituelle. Ce programme est conçu pour vous permettre de devenir de véritables disciples de Jésus-Christ. Ici, vous allez connaître, vivre et imiter Jésus-Christ à travers la parole de Dieu, car un disciple accompli est comme son maître. Nous avons déjà commencé, depuis le début de cette semaine, ce sujet dénommé « Comprendre la Bible ». Aujourd'hui, nous allons nous atteler sur ces trois réalités qu'il faut lorsqu'on étudie la Bible. Il faut absolument tenir compte du contexte. Justement, qu'est-ce que c'est que le texte? Et éviter le prétexte. Let's teach. Grandissons ensemble. L'affirmation que j'aimerais faire dès le début de l'enseignement d'aujourd'hui, c'est celle-ci. Et vous allez me dire ce que vous allez en penser. Hein? Voici ce que j'aimerais affirmer dès le début. Les écrits font franchir à la parole les limites de temps et d'espace. Je répète, les écrits font franchir à la parole les limites de temps et d'espace. Qu'en pensez-vous? Les écrits, ce qui est écrit. Ça veut dire que lorsqu'on met un support d'écrit en ce qui a été dit, ce support-là fait en sorte que ce qu'on avait dit reste plus longtemps que nous et l'instant dans lequel on l'a dit. Le support fait en sorte que ce qu'on avait dit se promène à des espaces, à des endroits où on n'était pas lorsqu'on l'a dit. Par exemple, cette émission que vous êtes en train de suivre avec moi maintenant, vous êtes en train de suivre cette diffusion en cet instant, le support par lequel on le place permettra à ce qu'une autre génération, après des temps, je serai peut-être barbu, tout blanc, là, mais celui qui regardera cette vidéo, des temps passent, des temps plus tard, ça sera à la limite de ce moment. Ça, j'aurai déjà dépassé les limites de ce moment. Quelqu'un qui le regardera quelque part dans le monde, il ne sera pas dans les studios de MCI TV en ce moment-là. Parce que le support que l'on donne à la parole lui permet de transcender le temps et l'espace. Et en particulier, puisqu'on parle de la Bible, les écrits ont été les moyens que Dieu a trouvé efficaces. Vous savez, Dieu aurait pu attendre qu'il y ait des vidéos pour que la parole de Dieu soit mise en vidéo, qu'on regarde Jésus en live. Mais il a pensé que le moment où les écrits étaient le meilleur support, c'était le moment qu'il fallait. Parce que les écrits pouvaient fidèlement porter le message au-delà de temps et porter le message au-delà de l'espace. Dieu savait que pour prendre ce qui s'est passé à Jérusalem et l'amener partout dans le monde fidèlement, pour prendre ce qui s'est passé à cette époque-là et le rendre disponible à tout le monde jusqu'à aujourd'hui, il fallait que ça soit écrit. Nous allons étudier aujourd'hui ensemble justement ces trois notions au cours de l'étude biblique. La notion du texte, la notion du contexte et cette chose qu'on aimerait tous éviter, qu'on appelle le prétexte. Mais avant tout, rappelons-nous sur le fait qu'il y a trois principes de base pour celui qui veut lire et comprendre la Bible. Premièrement, la Bible, on doit tenir compte de l'unité, de l'autorité, pardon, de la Bible. La première des choses, c'est l'autorité de la Bible. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi la Bible s'impose-t-elle à moi? Quand je l'ai lu, c'est un livre. Pourquoi ce livre s'impose-t-il à moi? Pourquoi ce livre est-il autoritaire sur ma personne? Pourquoi ce que je lis ici fait autorité? Vous savez, quand vous avez lu le code de la route, que vous prenez votre véhicule après, vous devez respecter ce que vous avez lu du code de la route. L'autorité du code de la route vient de la volonté collective exprimée à travers les institutions de l'État. Mais la Bible tient autorité sur nous à cause de son inspiration, d'où elle vient. Qui l'a écrit? L'auteur véritable de la Bible, c'est le Seigneur. Et l'autorité de la Bible est indissociable de son inspiration. Parce qu'elle est inspirée de Dieu, alors elle s'impose à nous, parce que c'est Dieu qui parle. Alors, quand on parle du texte biblique, souvenez-vous, le texte a autorité sur nous. On ne lit pas et puis on dit, bon, cette partie, moi, je trouve que c'est discutable. Hein? Dieu, quand même, il ne tient pas compte de nous, les êtres humains. Non, quand Dieu parle, on obéit. Il y a l'autorité du texte ou de la Bible. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle l'unité de la Bible. Lorsque vous lisez la Bible, la parole de Dieu, le texte, sachez-le qu'elle est, elle a de l'unité. Ça signifie que de Genèse à Apocalypse, vous lisez plusieurs livres, 66 que je vous ai dit, plus de 40 auteurs. Vous lisez plusieurs livres de styles littéraires différents. Mais en réalité, même si vous avez 66 livres, vous êtes en face d'un seul document. Dans quel sens? Au niveau du contenu et au niveau du thème. Ça signifie qu'au niveau du contenu de la Bible, de la Genèse à Apocalypse, au niveau du contenu, il n'y a pas de contradiction. Suivez-moi bien. Dans la Bible, que vous lisez du début jusqu'à la fin, rien ne contredit l'autre. Aucun livre ne contredit un autre. Par contre, vous avez des choses qu'on appelle des paradoxes. Et les paradoxes ne sont pas des contradictions. Une contradiction, c'est lorsqu'une idée, dans un même contexte, va à l'encontre d'une autre idée, dans un même contexte. Mais un paradoxe, c'est lorsque deux idées qui semblent en réalité aller à l'encontre, l'une de l'autre, mais qui en réalité, lorsqu'on étudie leur contexte, on se rend compte qu'ils ne se rencontrent même pas. Deux contextes complètement différents. Je donne un exemple. Je suis au studio MCI. Atoms est au studio MCI. Atoms est chez lui en train de manger. Ces deux idées sont-elles contradictoires ou non? Il faut y réfléchir. C'est contradictoire si Atoms est au studio MCI et Atoms est chez lui en train de manger, si ces deux actions se posent au même moment, dans un même contexte. Ce n'est pas possible. À moins que je me dédouble. Mais ce n'est pas possible. Je suis soit ici, soit à la maison en train de manger. Mais si dès le début, on dit qu'Atoms est chez lui à 12 heures, Atoms est au studio MCI à 15 heures, ces deux vérités, bien sûr, peuvent coexister parce qu'ils sont dans deux contextes différents. C'est des choses que vous trouverez dans la Bible. On appelle ça des paradoxes. Par exemple, vous trouverez des textes comme « Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme ». Ça, c'est dans le livre de la Genèse. Et vous vous rendez compte que Dieu ne commet pas de péché. Ah, Dieu n'est pas tenté par le mal. Et puis Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Est-ce que Dieu peut se repentir? Et vous entendez la Bible dire encore « Repentez-vous ». Mais si Dieu lui-même se repent, alors que c'est parce que vous avez l'impression d'une contradiction, parce que en fait, il s'agit d'un paradoxe. Quand on dit « Dieu se repent d'avoir créé l'homme », dans ce contexte-là, le verbe « repentir » ici, ne veut pas dire que Dieu est revenu sur un péché. Ça veut juste dire que Dieu a réfléchi sur ce qu'il avait fait avant et a changé d'avis. Il s'est dit « Je n'aurais pas dû le créer ». Il ne s'est pas repenti parce qu'il y a un mal, mais il a changé d'avis. Mais nous repentons, lorsqu'on parle des repentants, cette fois-ci dans le Nouveau Testament, il ne s'agit plus on n'est plus dans le même contexte. On est plutôt dans le contexte de l'homme pécheur qui a besoin de changer de vie. Donc, la Bible est unique. Elle a de l'unité de Genèse à Apocalypse dans le contenu, comme aussi dans le thème. Le thème veut dire que vous lisiez du début jusqu'à la fin, vous rendez compte qu'en fin de compte, il y avait une sorte d'introduction, puis de développement et une conclusion qui annonce très, très bien la finalité et bien sûr, pourquoi pas les épisodes qui vont suivre. Et le thème principal, vous allez les découvrir, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible le dit d'ailleurs littéralement dans Jean chapitre 5, verset 39. Jean chapitre 5 au verset 39. Il est écrit ce qui suit. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Jésus est en train de dire aux Juifs, ça c'est le livre de Jean, la grande partie du livre de Jean raconte la période où Christ était du côté de Judas. Et il dit aux Juifs, vous regardez les Écritures en profondeur, vous sondez ce qu'il y a à l'intérieur, pensant trouver quelque chose qui puisse vous aider, mais en fin de compte, toutes ces Écritures ne parlent que de moi. Souvenez-vous, lorsqu'il parle aux Juifs sur les Écritures, il ne parle pas de la Bible, il parle de l'Ancien Testament. Les Écritures dont il fait mention ici, c'est déjà l'Ancien Testament. Et déjà, il leur dit que l'Ancien Testament parlait déjà de lui. Et le Nouveau Testament, comme nous l'appelons, c'est justement le développement de sa vie, de sa doctrine et de ses disciples. Donc, de l'ancien au nouveau, il est question de lui, l'unité de la Bible au niveau du contenu et du thème aussi. Mais la troisième chose qu'il faut savoir, avant que nous puissions toucher à ces trois concepts de texte, contexte et prétexte, c'est qu'il y a ce qu'on appelle la variété de la Bible. Trois, la variété de la Bible. Ça signifie que quand vous lisez la Bible, vous devez savoir que les auteurs sont différents, les époques sont différentes, les émotions sont différentes, les humeurs sont différentes, les styles littéraires sont totalement différents. Sachez que vous êtes en face d'un document, mais varié en fait. Quand vous quittez Genèse, quand vous quittez les livres de la Pentateuque, vous entrez dans un autre livre, vous avez un autre auteur. Je vous en parlerai. Vous savez, dans le canon juif, le livre de Josué n'est pas considéré comme un livre historique, mais plutôt un livre prophétique. Parce qu'il considère que Moïse avait dit que Dieu vous enverra un autre prophète, comme moi. Et il a donné Josué. Donc Josué est considéré comme un livre prophétique dans le canon hébraïque. Regardez bien, mes amis, ici, il s'agit d'un tout autre livre. Vous êtes en train de réfléchir dans une toute autre réalité. Vous êtes dans les prophéties de Jérémie et vous tombez dans les lamentations de Jérémie. Franchement, ce ne sont pas les mêmes émotions qui sont là. La Bible, quand vous êtes en train de lire les textes, tenez compte de sa variété. Alors, parlons donc de ces trois choses dans l'étude biblique. Le texte, le contexte et ce qu'il faudra éviter, les prétextes. Le texte de la Bible. La Bible est un mélange du canon juif, de ce qu'on appelle le Tanakh, et du canon chrétien, donc le Nouveau Testament, comme nous l'appelons ainsi. Les canons juifs, comme je venais de le dire tout à l'heure, c'est tous ces livres sacrés que reconnaît le judaïsme, que Christ a lu lui-même lorsqu'il était dans le temple, lorsqu'il entrait dans le temple, et il dit que c'est tout cela qui parle de lui. Tanakh veut dire Torah, Nevim, Ketuvim, veut juste dire la loi, les prophètes et les autres écrits. Tous ces écrits qui constituent l'Ancien Testament, et ce qui constitue le Nouveau Testament, c'est ce qui constitue le texte de la Bible. Les enseignements, on y trouve aussi une différence convergente, je vais dire, parmi les livres qui permet de catégoriser ces livres-là. Ces livres sont différents, mais ils se rencontrent à un point. Et ce qui permet à l'étudiant du texte de catégoriser ce texte-là. C'est là que vous entendez parler de livres historiques, livres prophétiques, livre poétique. Vous entendez des termes comme ça parce que c'est une tentative de catégoriser le texte, de sorte qu'on sache, oh voilà, ces textes vont dans le même style, comme ce qu'on appellerait des livres, on appelle ça des livres synoptiques dans les évangiles. Les trois premiers évangiles, donc Matthieu, Marc, Luc, on les considère comme des évangiles synoptiques qui ont le même sens, qui abordent le sujet dans le même sens. Donc le texte de la Bible, c'est en fait ça. Vous devez tenir compte de cela. C'est ça le texte. C'est la Torah dans deux langues, l'hébreu et l'araméen qui revient plusieurs fois à quelques endroits, ainsi que le grec. C'est le texte que vous avez devant vous. C'est un texte qui n'est pas d'aujourd'hui. C'est une langue, ce sont des langues anciennes. C'est les textes que vous avez devant vous. Ce n'est pas écrit nécessairement dans votre langue, c'est écrit dans une très, très ancienne langue et ça a été traduit pour vous. C'est le texte que vous avez, tenez compte de ça. Mais il y a aussi ce qu'on appelle le contexte. C'est quoi le contexte? C'est simplement l'ensemble des éléments auxquels un texte ou un fait est lié pour sa compréhension. Il y a des éléments dont un texte ou un fait est lié pour qu'on puisse le comprendre. Vous voulez comprendre un geste que quelqu'un a posé, vous devez vous dire il était où, quand, pourquoi. Qu'est-ce qui l'a poussé à faire ça? De la même manière, lorsque vous voulez comprendre un texte, il y a un tas d'éléments qui l'entourent avant de pouvoir comprendre ces textes-là. Ces éléments sont à l'intérieur du texte, sont autour du texte, sont dans l'histoire. On appelle ce contour d'éléments nécessaires à la compréhension d'un texte. On appelle ce contour-là le contexte. Si vous voulez voir un endroit dans le monde où on massacre le contexte, Allez sur les réseaux sociaux. Les gens prennent des petites phrases, des petites vidéos, ils les coupent. Personne ne se préoccupe du contexte. Et on prend là où celui-ci avait dit tel mot, là où il était fâché, on a mis là-bas. Regardez des fois les annonces, les titres sur YouTube. On a pris une petite photo, on dit quelqu'un est très fâché. On prend une photo de lui, il avait la tête bizarre. Si vous manipulez le contexte, vous manipulez les textes, vous êtes en train de bouger la tête de gens sur le contexte. Sachez-le bien que vous êtes en train d'amener les gens aussi dans des prétextes. Si vous ne tenez pas compte du contexte, vous pouvez créer une guerre. Deux personnes peuvent se fâcher parce qu'ils n'ont pas tenu compte du contexte. Souvenez-vous, quand je mettais les bases tout à l'heure, je vous ai parlé de cette affaire de la diversité, non seulement de l'unité de la Bible au niveau du contenu. Je vous ai parlé de paradoxes et de contradictions. Dès que vous ne tenez pas compte de contexte, vous êtes embrouillé complètement. Le contexte est le cœur de la compréhension de la Bible. Vous avez un texte, mais vous devez tenir compte du contexte. Regardez, la Bible elle-même était préoccupée par le contexte. Je vous lis juste un exemple. Il y en a pléthore, mais je vous lis juste un exemple. Marc chapitre 7, versets 2 à 4. Voyez comment la Bible elle-même, les auteurs bibliques, eux-mêmes savaient qu'il est important d'établir de contexte sur certains textes, certains mots qu'ils utilisent. Marc chapitre 7, versets 2 à 4. Avant de lire, attendez, je vais vous dire une chose. Marc, c'est un livre qui est écrit sur base des prédications de Paul, de Pierre plutôt. La traduction raconte que Marc l'interprétait. Interpréter Pierre lorsqu'il allait prêcher. Et donc, les connaissances de grec de Pierre étaient quand même assez moindres par rapport à celles qu'avait Marc. Alors, Marc interprétait Pierre. Et il semblerait qu'à un moment donné, Pierre a cessé de venir dans les mêmes endroits. Et les gens autour ont commencé à lui faire une petite pression, lui disant, « Mais Marc, écoute, ces choses que Pierre nous disait, est-ce que tu ne peux pas nous les écrire ?» Et quand on regarde le récit de Marc, on ressent que c'est vraiment... Il est en train d'écrire un langage parlé. Le livre de Marc est empreint de ces mots. Aussitôt Jésus, aussitôt Jésus. Il y a très peu de références de temps. Ce n'est pas aussi suivi que Luc. Luc qui est en train de faire des recherches et qui donne le lieu des temps. Marc, c'est vraiment comme un prédicateur qui est en train de raconter les différentes histoires. Mais retenez très bien que dans l'histoire, dans le temps, c'est le livre de Marc qui est le livre le plus ancien de tous les évangiles. Mais Marc est si écrivant. Sachant que ses premiers interlocuteurs étaient grecs, a eu besoin des contextes quand il entend de parler de certaines choses. C'est là qu'il écrit, dans Marc, chapitre 7, versets 2 à 4. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Voyez, il dit impur et dit c'est-à-dire. Il veut expliquer. Il se dit, ce mot que je viens de placer ici, ce texte que je viens de placer a besoin de contexte. C'est-à-dire, non lavé. Point. Il dit, or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans être lavés soigneusement, sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Vous voyez, il utilise mon purifié maintenant pour rappeler l'impur qu'il a dit tout à l'heure. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles comme le lavage de coupe, des cruches et des vases d'airain. Pourquoi il dit tout ça? Parce que ceux qui vont lire ce texte ne sont pas juifs. Ils connaissent pas la tradition, ce qu'il appelait ici les observances traditionnelles. Il faut qu'ils comprennent le contexte. Quand on a vu les disciples de Jésus manger sans se laver les mains, pourquoi ça cause un problème? Quelqu'un se dirait, bon, nous on fait ça tout le temps, pourquoi on les a... Il faut savoir où ça s'est passé, quand ça s'est passé, dans ce contexte-là, leur culture. Le contexte est le nœud de la compréhension de tout texte. Si vous ôtez le texte n'a plus de sens pour quiconque le lit. Si les choses que nous sommes en train de lire ont été écrites il y a longtemps, et si vous mettez de côté le contexte, vous avez tué complètement la vie du texte. Mais il n'y a pas que le contexte, mes amis. Il y a aussi le prétexte. Qu'est-ce que j'entends ici par prétexte? C'est simplement le fait que on prétende des choses sur le texte en utilisant des données imaginaire. Il y a bien de fois où des gens font sous-entendre des choses qui ne sont pas là. Font penser à des choses, ils se disent, si la Bible dit ça, donc, ils font des syllogismes dont les prémices ne se trouvent pas dans les textes. C'est ce qu'on appelle un prétexte. Commencer à forcer le sens du texte par des éléments imaginaires qui ne sont pas à l'intérieur du texte. Et c'est ça qui a causé tellement d'hérésie. J'ai vu plusieurs fois des gens prendre la Bible, après l'avoir lue, ils se mettent à dire des choses qui n'y sont pas. Et ce qu'il dit, il ne l'a même pas lu. Ça a causé tellement de tort à l'Église du Seigneur. Ça a tellement dérouté des disciples de Jésus. Et le but de cette émission, c'est réellement faire de vous des disciples de Christ. Et pour cela, vous devez comprendre ce qu'on appelle un contexte. Il y avait un moment, je ne sais pas si vous avez vu ça, j'ai vu ça en allant aux États-Unis. Une entreprise, je n'aimerais pas la citer, faisait sa publicité. C'est une entreprise, je crois, d'assurance. Et pour faire sa publicité, elle se basait seulement sur des erreurs, des jugements que nous avons de foi. Et j'aime toujours une image qu'ils mettent là. Ils donnent l'image d'un jeune homme qui est arrivé chez lui. Je pense qu'il est arrivé plutôt dans la maison de sa fiancée, de sa copine, pour lui faire une surprise. Il ouvre, il voulait préparer à manger. Et quand il arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la nourriture, tout ce qu'il avait autour de lui, il va en cuisine. Quand il commence à préparer, il y a la sauce qui est toute rouge. À quelques instants avant que la fiancée n'arrive, le chat se met à s'agiter. Il s'agite à gauche, à droite, c'est un chat blanc, le chat de la fiancée. Et pendant qu'il est en train de bouger à gauche, à droite, il essaie de l'attraper. Le chat fait tomber l'assiette qui avait la sauce rouge. La sauce est par terre. Et c'est à ce moment-là même que le fiancé réussit à le tenir, à attraper le chat. Mais en sa main, il avait un couteau avec lequel il travaillait. C'est à cet instant juste que la fiancée ouvre la porte et trouve son copain avec un couteau à la main, son chat à la main et par terre quelque chose de tout rouge. Ta-da-da-da! Et on regarde dans le visage de la jeune fille, comment il est choqué. Il dit, c'est pas vrai, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu veux faire? Vous savez, lorsque le contexte n'a pas été pris en compte, ça peut produire des sentiments, ça peut produire des sensations, ça peut même créer des hérésies de foi. Les gens peuvent même croire à une chose qui n'existe pas. Si quelqu'un n'avait pas vu cette vidéo, pour voir dès le début qu'il s'agissait de la nourriture et non pas du sang, qu'il a attrapé le chat pour le sauver de la casserole et non pas le tuer, et que le couteau qu'il tenait entre ses mains, c'était pas tuer les chats, c'était pour couper la nourriture. Si tu n'as pas tous ces éléments de contexte, tu finis par faire une très mauvaise interprétation, on appelle ici un prétexte. Et pour ça, il faut commencer par comprendre le texte tel qu'il est, sans rien y ajouter, parce que le texte de la Bible, ce sont des langues qui ne sont pas les nôtres. On doit bien le comprendre et bien les saisir. Dans ma vie, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui croient à différentes choses au sujet de la Bible. Et en grandissant, il y avait ce célèbre groupe de prières et des rencontres qui s'est basé sur un texte de la Bible. L'épître qui dit... Vous, petit enfant, vous êtes des dieux. Juste ça. Vous êtes des dieux. Si vous entendez ces textes, vous avez l'impression que ça dit vous êtes des au pluriel, Dieu au pluriel. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils font lire à leurs adeptes ce texte, il dit vous êtes des dieux. Et donc, le monsieur s'appelait Dieu carrément. Là, ce culte était basé sur son nom et le fait qu'il était Dieu. Et qu'est-ce qu'il disait? Il disait aux gens, c'est écrit dans la Bible, vous êtes des dieux. Quand vous lisez dans la Bible, Jésus dit, pour quelle raison voudrez-vous me tuer? Parce que j'ai fait beaucoup de miracles. Ils ont dit, parce que toi qui es un homme, tu te dis Dieu. Il a dit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. Et ce texte là-bas, vous êtes des au pluriel, Dieu en minuscule. C'est pour dire, vous êtes de la nature de Dieu. Vous êtes ces êtres que Dieu a créés et qui sont sur la terre comme Dieu. Mais le texte dont ce monsieur faisait allusion, c'est celui qui est dans les épîtres qui dit, petit enfant, vous êtes des dieux. Mais le deux, là, n'est pas dire que vous êtes des dieux. Ça veut dire vous appartenez à Dieu, parce que le mot Dieu, après, est en majuscule. Il dit vous appartenez à Dieu. Regardez comment un texte dont on n'a pas pris sens du contexte s'est transformé en une doctrine hérétique dans laquelle les gens ont donné de l'argent. Ils ont cru à cet individu qui se faisait prendre pour un dieu qui n'était pas. Et cet homme disait qu'il était Adonai, le dieu de la Bible. Il donnait à son fils le nom de Jésus et sa famille devenait une trinité. Seulement, il ne savait pas comment expliquer le fait qu'il avait beaucoup de femmes et qu'il avait beaucoup d'enfants. Je crois qu'il n'avait plus que Jésus. Il devait créer d'autres noms parce que finalement, ses mauvaises intentions l'ont amené dans le délire. Frères et sœurs, j'aimerais insister sur une chose. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce dicton, de cette affirmation qui dit « Un texte hors contexte est un prétexte ». Lorsqu'un texte est pris en dehors de son contexte, ça devient déjà un argument fallacieux. C'est déjà tordu. Ce qu'on en tire n'est plus vrai. Frère, vous ne savez pas combien de doctrines sont sorties de ce livre. Ce même livre que nous lisons, étudions ensemble avec vous. Frères et sœurs, disciples de Jésus, faites attention. Lisez les textes par vous-même. Étudiez bien le contexte. Puis, faites attention. Ne pas faire dire au texte ce qu'il n'y a pas à l'intérieur. Ne faites pas de prétexte avec les textes. Sachez-le très bien, mes frères, qu'il y aura un grand jugement sur ceux qui enseignent la parole de Dieu. Alors, prenez compte du texte. Étudiez bien le contexte et faites attention à des prétextes. Ce que nous allons faire, nous allons pousser tout ceci un peu plus loin. À la prochaine émission, demain donc, nous allons commencer à aborder un tout autre sujet. Et je vous assure, ce sont des mots assez difficiles qu'on entend souvent et qui font mal aux oreilles de ceux qui veulent étudier la Bible. Des mots forts qui apparaissent très théologiques. Il s'agit donc de l'exégèse et de l'herméneutique. Mon but ici dans cette émission, c'est de rendre tous ces grands concepts très simples pour que nous soyons capables de pouvoir les utiliser. Merci à vous donc d'avoir suivi Teach aujourd'hui, cette nouvelle émission basée sur l'enseignement et la maturité spirituelle en vue de former des disciples. Nous voulons que vous deveniez des amis de la parole de Dieu et que vous grandissiez vous-même par la lecture, le vécu des Saintes Écritures comme un véritable disciple de Jésus-Christ. Pour moi, je vous vois demain et nous allons continuer ce sujet avec joie et plaisir. Let's teach!
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'EMCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Teach sur emcitv.com.